La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et nous accueillons Anna. Bonsoir Anna.
Oui. Bonsoir.
Merci de nous avoir appelé au 3921. Comment allez-vous?
Ça va, un peu stressé.
Ouais, bah c'est normal. Ouais. C'est normal, vous avez des choses qui ne sont pas faciles à nous raconter là ce soir.
Non, effectivement, c'est un peu compliqué, oui. Oui. En fait, moi, je vous ai appelé cet après-midi parce que je surfais sur votre page Facebook et je suis tombée sur un post d'un internaute, un papa qui a été séparé subitement de sa fille et s'en est suivi les commentaires des uns et des autres et ça s'est un peu transformé en débat homme contre femme ou femme contre homme et je voulais intervenir là-dessus. Ouais.
C'était malheureusement voilà. Un peu la couleur de cette libre antenne hier soir. Ouais. Je vous avoue avoir été un peu surpris de la teneur de certains propos. Dresser un genre contre l'autre à travers des discordes conjugales ensuite. Bon, je m'en excuse auprès de celles et ceux qui écoutent la libre antenne vraiment pour son aspect humain et son aspect intimiste. Voilà, je rappelle que cette libre antenne, vous me permettez de le rappeler Anna, que cette libre antenne n'est pas faite pour débattre de sujets de société, mais pour témoigner d'une histoire qui semble importante dans vos vies. Donc voilà. Et je vous écoute, Anna.
En fait, moi, je voulais raconter la mienne, forcément, l'histoire, et puis celle de mon amie aussi, du coup, puisqu'elles se sont entrecroisées à un moment donné. Moi, j'ai vécu en tant qu'enfant un aliénement parental, mais de la part de mon père, qui a organisé la fugue de mon petit frère et de ma petite sœur. Ce qui a conduit à un retrait de garde auprès de ma maman. Et je n'ai pas vu mon frère et ma sœur pendant plus de 5 ans, du coup, de ce fait. Alors, pour la petite histoire, je me suis quand même retrouvée en face d'un JAF, puisqu'à l'époque, j'avais une petite quinzaine d'années, qui m'a gentiment expliqué qu'il fallait que j'arrête de m'intéresser aux garçons et que je travaille un peu plus à l'école pour ne pas faire le même métier que ma maman. À l'époque, elle avait repris des ménages pour pouvoir payer les factures de la maison, puisqu'elle était femme au foyer quand mon père est parti. Et cette dame, à l'époque, ne m'a pas laissé m'exprimer et lui dire à quel point mon père pouvait être quelqu'un de maltraitant à la maison. Et c'est vrai que mon papa l'était. Et paradoxalement, en public, c'était quelqu'un d'adorable qui avait une belle aura et qui passait très bien. Et ça a été comme ça. Donc, mon frère et ma sœur sont allés vivre chez lui. Et moi, je suis restée avec ma maman qui, à l'issue de l'enquête sociale, a récupéré le droit de visite, mais n'a pas fait les démarches pour voir mon frère et ma sœur parce que je pense maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'elle n'a pas eu le courage de se confronter à nouveau à la personne qui était mon papa. Quoi.
Oui.
Voilà.
Elle n'avait pas envie de remettre le couvert, refaire la guerre, je suppose.
Sans doute. Enfin, voilà. Et donc, suite à ça, moi, je me suis construite un peu comme j'ai pu. J'ai rencontré le père de mes enfants, avec lequel j'ai vécu une bonne dizaine d'années. On a eu 2 filles ensemble, on s'est séparés. Et je fais partie de ces mamans qui ont la possibilité d'avoir leurs filles toute la semaine. Mon ex-conjoint les a en week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Et mes enfants ont une bonne relation avec leur papa, mais celui-ci semble lui convenir. Il ne veut pas plus que ça. Et quand il veut les voir de temps en temps, il peut les voir. Enfin, il n'y a pas de soucis particuliers par rapport à ça. Ça se passe. Et là, maintenant, ça fait 4 ans.
Ça se passe plutôt bien. Donc, c'est ce que vous êtes en train de me raconter.
Ça se passe plutôt bien. Oui, je pense qu'il faut. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure.
D'accord.
Parce que, entre-temps, j'ai rencontré mon ami qui, lui, par contre, vit actuellement un drame. Puisque son ex-conjointe, suite à leur séparation, a souhaité partir en Outre-mer pour se ressourcer auprès de sa famille. Et elle a emmené leur petite fille. C'était au départ pour 15 jours de vacances. Et en fait, elle est restée là-bas. Elle n'est pas rentrée. Donc, elle lui a annoncé le jour de son retour qu'elle avait pris la décision de vivre là-bas à 8 000 km et de ne pas revenir en métropole avec, avec leur petite fille.
Ce qui est
de
tout, tout à fait dramatique. Vous avez raison.
Ce qui est tout à fait dramatique, d'autant plus qu'il était, c'était un papa comme la plupart des papas, très très investi auprès de sa petite fille, s'en occupait beaucoup. Et
elle avait le droit de faire ça ou ça pouvait être considéré comme un enlèvement parental parce que on n'a pas le droit normalement de faire ça.
Ben, normalement, effectivement, on n'a pas le droit, enfin, on peut tous penser qu'on n'a pas le droit de faire ça, comme on n'a pas le droit d'organiser une fugue. Enfin, vous voyez, ça paraît hallucinant. Et contre toute attente, donc il a saisi le JAF en référé. Et contre toute attente, même si le JAF a écrit noir sur blanc dans son jugement que cette personne était partie de manière déloyale à plus de 8000 km, il donnait le droit de garde, enfin le droit de garde de la petite à la maman au vu du jeune âge de l'enfant. Voilà. Donc ça a été.
Comme cela a été évoqué hier d'ailleurs dans le témoignage de François qui avait vu son fils remis à la maman parce qu'il avait 2 ans et que le JAF avait estimé qu'à 2 ans, cet enfant était trop jeune pour. Voilà, vivre une semaine chez son père, une semaine chez sa mère. Et donc, c'était la maman qui avait remporté la mise, hein, comme on dit, c'est-à-dire avec une garde plus que alternée.
Ben, c'est exactement ça, c'est remporter la mise, c'est exactement le mot. Alors, enfin, les bons mots, d'autant plus que tout s'est passé comme dans la plupart des témoignages. Hein, mon amie s'est retrouvée avec une plainte diffamatoire qu'elle avait posée 2 jours avant de partir sans raison pour violence. Donc il y a suspicion, enfin vous voyez ça.
Elle a préparé le terrain, quoi.
On vous accuse pas, mais enfin bon, il y a quand même le doute, même si a priori ça n'a pas été pris en compte par le JAF le jour de l'audience. Hein. Mm-hmm. Et puis après, après, c'est de la science-fiction. Après, c'est véritablement de la science-fiction parce que cette femme a réussi à obtenir un certificat de résidence en date de son 2e jour de vacances, donc c'est-à-dire 2 mois avant la saisie du JAF en référé. Donc c'est un document officiel qu'elle a eu de la mairie du village dans lequel...
Ce qui établit bien la préméditation. Hein,
Oui, exactement, mais qui a été, enfin, ce document a quand même été produit par une mairie française, vous voyez, par les autorités officielles. Et puis après, il y a une main courante qui a été enregistrée par un membre de la famille aussi, et qui est contradictoire. Enfin voilà. Donc tout ça, on a mis des mois, jusqu'au compte rendu de l'audience du référé, à essayer de démêler tout ça, parce que ces hommes ou ces femmes, hein, d'ailleurs, qui sont coupés du jour au lendemain de leurs enfants, ils se retrouvent juste seuls, complètement isolés, absolument pas accompagnés par les professionnels, parce que même si vous allez voir un avocat, il faut le temps que l'avocat comprenne ce qui se passe et qu'il prenne en considération votre histoire. Et puis je pense vraiment que peut-être la différence entre un homme et une femme, c'est que les hommes ont plus de mal aussi à s'ouvrir et à parler des choses qui sont, sur le moment, des choses qui sont intimes et qui sont... qui était de l'ordre du couple avant, de comment ça se passait, qu'est-ce qu'il y aurait pour, de refaire le point sur tout ça. Enfin bon, bref. À l'issue des 4 mois, ça faisait 4 mois, la décision tombe. Donc la petite doit vivre chez sa maman. Par contre, mon amie a la totalité des vacances scolaires. Il ne doit pas s'acquitter d'une pension alimentaire. C'est à la maman de faire en sorte que la petite puisse rejoindre le sol de la métropole. Et à ce jour, elle n'a jamais respecté le jugement.
C'est-à-dire que c'est à la mère de prendre en charge les frais
ouais,
de ouais. la petite pour qu'elle puisse rejoindre donc son père en métropole.
Oui, le juge avait acté cela parce que, du coup, elle vit chez ses parents, elle n'avait pas de charge et puis elle avait des ressources qui équivaut à presque 2000 euros quoi, par mois. Donc, c'était pas, il n'y avait pas de. Voilà. Donc, c'était un peu la contrepartie. Enfin, la contrepartie. Mais en soi, la prise en charge financière des allers-retours, c'était même pas le problème à la base. C'est vraiment le fait que. À ce jour, elle n'a fait aucune démarche pour respecter ce jugement et elle s'en vante en fait quelque part. Vous voyez. Ouais,
je pense que votre compagnon et on le voit dans ce que vous racontez a eu affaire encore aujourd'hui visiblement à quelqu'un qui a voulu miner le terrain totalement à ce père. Qui a prémédité cet enlèvement parental, puisque c'est d'enlèvement là, dont on parle. Il a plutôt été gentil, votre compagnon. Je ne sais pas s'il a poussé l'histoire aussi loin que ça, mais il aurait pu porter plainte pour enlèvement, parce qu'on ne quitte pas la métropole comme ça, on ne va pas habiter à 8000 km sans demander l'avis du parent. Et puis je suppose qu'il y avait un jugement qui faisait état de cette garde alternée, en tout cas qui faisait que votre compagnon voyait sa fille un week-end sur deux et sûrement la moitié des vacances. On va marquer une petite pause, Anna, et puis on se retrouve dans quelques instants, d'accord ? Vous okay. restez avec moi ? À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Nous sommes toujours en ligne avec Anna qui nous raconte ce soir... l'aventure que l'on entend malheureusement trop souvent dans cette libre antenne d'un parent qui décide comme ça de partir à des milliers de kilomètres emmenant son enfant, parce que c'est son enfant, mais ça n'est pas que son enfant, et qui prive un homme de sa petite fille qui en plus voilà, prémédite cet enlèvement et puis... continue en n'assurant pas les frais qui permettraient donc à cette petite fille de rentrer en métropole, voir son papa. Je dis malheureusement, Anna, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ici, bon nombre de parents, alors des femmes, des hommes, des femmes et des hommes, parce qu'il n'y a pas plus un genre qui est favorisé que l'autre sur cette antenne, mais on voit combien les parents... Combien de parents se livrent une guerre avec pour enjeu au milieu, comme monnaie d'échange ou moyen de pression, ses enfants. Cette petite fille, comment elle le vit tout ça ? Est-ce que votre compagnon l'a revue au moins depuis son installation en métropole ?
Alors, il a pu effectivement la revoir. Alors, c'est une petite fille qui a 2 ans, qui est pleine de vie, avec laquelle il peut s'entretenir en audio une fois par semaine, et qui est toujours très demandeuse de ses moments avec son papa. D'ailleurs, ça m'étonne toujours d'avoir parlé de ce qu'elle a pu vivre, des instants qu'elle a pu vivre, par exemple cet été avec lui, lui redemander la peluche qu'elle a laissée ici, ou ce genre de choses, voilà. En dehors de ça, je pense que c'est vraiment ça le problème, parce que moi, je vois au quotidien la difficulté, la douleur de mon amie à ne pas pouvoir voir sa fille. L'injustice aussi, je la vis, je la revis pour une seconde fois, mais cette fois-ci j'ai le regard d'adulte, c'est-à-dire que moi j'ai été coupée de mon petit frère et de ma petite sœur subitement il y a encore une fois un peu plus de 30 ans, et j'avais ce regard d'enfant et j'avais cette injustice-là, enfin je ressentais cette injustice-là, cette colère et cette tristesse. De me dire que c'était pas possible, qu'on puisse pas statuer, enfin dire que c'est pas normal, que c'est pas juste, qu'ils se sont trompés. Voilà, j'avais déjà ça en tant qu'enfant en moi. Et je me dis que là, en tant qu'adulte, je le vis à travers... à côté de mon ami. Mais je me dis, et cette petite fille-là, à quel moment le papa ou la maman qui décide d'emmener son enfant loin de l'autre parent, réfléchit à ça. Et pour moi, ces personnes-là sont des parents défaillants, quoi qu'il arrive. Et je ne comprends, et donc du coup pas en mesure d'élever leur enfant correctement. Mm-hmm. Parce que,
d'où votre difficulté encore, à comprendre la décision de la justice familiale, encore une fois.
Mais pour moi, la décision du JAF est de toute façon incompréhensible parce qu'elle est, elle est complètement paradoxale. Enfin, elle est, ouais. C'est une décision qui a la limite de la schizophrénie. On vous dit, voilà, c'est déloyal, c'est pas normal, mais vous pouvez garder, vous avez le droit de résidence pour cette petite fille parce qu'elle n'a que 2 ans. Donc ça veut dire quoi? À partir de qu'avant 2 ans, un enfant n'a besoin que de sa maman. Ça veut dire qu'un papa, on en a besoin quand? Quand on a 10 ans, quand on a 15 ans, quand on a... Vous voyez,
vous qui avez 42 ans, vous en savez quelque chose, puisque même si votre père a fait ce qu'il a fait, il vous a aussi quelque part privé de cette relation au père, de votre construction, en tout cas d'une construction normale d'une enfant que vous étiez, et qui... Voilà, on sait combien les petites filles, puis ensuite les adolescentes, se construisent aussi en grande partie en se reflétant cette image du père. Or, vous-même, aujourd'hui, vous voyez combien ça peut faire mal lorsque ça ne se passe pas bien.
Bah, je pense que... un enfant en soi, idéalement, a besoin de son papa ou de sa maman, et de sa maman ou de ses deux mamans ou de ses deux papas, en tout cas d'être choyé par ça, c'est dans le schéma idéal. Voilà, après la vie fait des fois que c'est pas possible, mais quand c'est pas possible et que c'est dû à la volonté d'un des deux parents de spolier l'autre, le parent pense spolier l'autre de sa relation avec l'enfant, mais ce que le parent ne comprend pas, c'est qu'il spoil l'enfant lui-même. Enfin, c'est l'enfant qu'il sanctionne en le coupant de l'autre. Et quel que soit finalement l'autre, quel que soit son regard qu'il peut avoir sur l'autre. Parce que je me dis toujours que finalement, à l'arrivée, l'autre, on l'a choisi comme parent. Qu'on soit mère ou père, on a choisi le père ou la mère de ses parents.
Au début, c'est clair. Oui.
Au départ, voilà. Et après, pour moi, il y a ce qui se passe dans le couple. Et c'est là où on confond le couple et la parentalité. Ben, des fois, ça fonctionne et c'est tant mieux et c'est génial. Et puis, il y a des fois où ça ne fonctionne plus, hein, où il y a des adultes. Mais en quoi ça concerne les enfants?
Vous avez raison de le souligner. C'est en cela que beaucoup d'adultes confondent parentalité et relations d'amour, de couple. Et qu'à aucun moment, ils ne pensent au droit de cet enfant, puisque c'est de ça dont vous parlez, du droit de cet enfant à jouir de son père et de sa mère. J'en profite pour... répondre à l'une de nos auditrices qui s'appelle Kat et qui nous dit ce soir « Bonsoir, la maman est partie à 8000 km, mais sur le territoire français, elle a simplement déménagé, ce n'est pas un enlèvement. » Eh bien, même si dans le texte, c'est ça, pardonnez-moi Kat, mais c'est un enlèvement tout de même. Parce que dans les faits, c'est un enlèvement. Si un jugement... attribuer la garde un week-end sur deux à ce père, cette mère n'a jamais été en mesure de ramener son enfant le week-end où elle devait visiter être avec son papa. Et à partir de ce moment-là, elle ne respecte pas le jugement et c'est donc un enlèvement. Voilà.
Bah, c'est là où on joue sur les mots parce que, je veux dire, après, alors c'est vrai qu'on ne peut pas tous habiter.
On joue sur les mots là, vous avez raison, mais dans les faits, c'est un enlèvement.
Mais je veux dire, à un moment donné, quand vous avez vos enfants, vous vivez dans la même maison, vous vous séparez, juridiquement, on peut déménager, on peut refaire sa vie.
pas à 8000 km,
à 200 mètres, mais à partir du moment effectivement où vous faites le choix de mettre 8000 km entre, ben oui, c'est un enlèvement effectivement,
voilà.
C'est ce qu'on appelle
et
un enlèvement géographique volontaire.
Voilà, un enlèvement géographique volontaire. Et pourquoi
d'autant
en plus,
Olivier, ouais. Il a été que ce déménagement, comme nous dit votre auditrice, a été fait avant la décision du JAF, avant la première décision du JAF.
Alors donc c'est bien un enlèvement. C'est bien,
voilà.
Un enlèvement. Et de plus, je vais vous dire ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Sans vouloir prendre obligatoirement votre défense, parce que vous nous appelez ce soir et que bien évidemment, nous n'entendons que votre son de cloche. Mais lorsque vous évoquez cette mère qui va faire établir son lieu de résidence dans cette commune, elle a raison, Kat, hein, de souligner que c'est sur le territoire français. Bah, quand elle va faire, faire constater qu'elle vit là dans cette commune en France, bah, pourquoi dans cette mairie on mettrait sa parole en doute? Pourquoi aller porter plainte pour violence et pour je ne sais quoi deux jours après être arrivé dans ce lieu de vacances? Lorsqu'on arrive dans un lieu de vacances, normalement, si on est habité des meilleures intentions à l'égard de son enfant, bah, on va à la plage, on va profiter de ce nouveau lieu de vacances. On ne se précipite pas dans un commissariat pour porter une plainte sortie de nulle part, en fait, hein, parce que j'ai bien compris, c'était bien une plainte sortie de nulle part.
Exactement, oui.
Mmh. Comment a réagi la justice par rapport à tout ça? Elle a entériné définitivement cette décision?
Non, c'est pour ça que je témoigne sous pseudo ce soir. Non, le comble de l'histoire, en fait, c'est que l'ex-compagne de mon ami donc a fait effectivement appel de la décision de référer en exigeant donc dans sa procédure d'appel que mon ami vienne exercer son droit de visite en outre-mer. Parce que la petite est trop petite. Voilà, on en est là.
D'accord.
On en est là, voilà. Donc,
quel âge a-t-elle, cette petite?
Elle a 2 ans.
D'accord. Bon, elle ne peut pas prendre l'avion toute seule à 2 ans.
Non, ça, elle doit être accompagnée, c'est certain, mais... Mm-hmm. L'accompagnement, c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est possible au vu des allers-retours des deux familles entre la métropole et l'outre-mer. Voilà.
Qu'entendez-vous par là, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, qu'entendez-vous par là, l'accompagnement est possible, c'est-à-dire comment?
Bah, l'accompagnement par avion, enfin, je veux dire, le trajet est possible, il y a une possibilité, enfin, je veux dire, on ne peut pas, c'est pas le trajet qui pose problème. Je veux dire, elle avance, en fait, elle rentre dans la faille que finalement a avancé le premier JAF en disant bon, bah voilà, effectivement, la petite est trop petite, donc elle ne peut pas, c'est pas le trajet parce qu'elle ne peut pas voyager, c'est parce qu'elle est trop petite, il faut qu'elle reste auprès de sa mère. Et donc, c'est au père de se déplacer.
Ouais,
et de venir exercer son... Je veux dire, elle habiterait à 600 km, l'argument tiendrait pareil. Vous voyez, c'est pas le voyage en lui-même qui pose souci.
D'accord, d'accord.
Dans la manière dont le dossier a été monté. Mmh. Voilà.
Et donc ça, pour l'instant, vous n'avez pas la réponse de tout ça?
On est dans l'attente. La semaine prochaine, ça doit être...
La semaine prochaine.
En cours d'appel, oui.
D'accord, ouais, mais alors, soyez gentils de nous tenir au courant la semaine prochaine lorsque... vous prendrez connaissance de cette nouvelle décision de justice, parce que je pense que ce soir, cela intéresse bon nombre de nos auditeurs, toutes celles et ceux qui s'intéressent à la destinée des uns et des autres, hein, de tous ceux qui appellent là pour se raconter et raconter ce qu'ils affrontent quotidiennement dans leur vie. Mais je pense aussi à tous ces parents qui sont en guerre et peut-être vont-ils apprendre en écoutant tous ces témoignages que, au final, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie dépensée pour faire souffrir. Oui, parce qu'au bout du compte, même si le papa souffre, cette petite fille, elle souffre obligatoirement.
C'est, oui, c'est ça. Et je voulais juste revenir sur un point, de parentalité qui me paraît important. On parle beaucoup de féminisme et je suis profondément féministe. Et je pense qu'il ne faut pas confondre le féminisme avec le besoin de vouloir s'imposer, enfin en tout cas être au-dessus des hommes. Ce n'est pas ça le féminisme. Donc j'espère que la gente masculine comprendra ça, parce que sous couvert de discours féministes, on est en train, nous les femmes, de scier la branche sur laquelle on est assise, à vouloir mettre en avant notre rôle de mère. On est quand même sociétalement, on vit dans un pays où la mère est reine. Et pourtant, j'ai bien conscience, hein, pour avoir subi des maltraitances, que la femme est parfois et souvent même maltraitée. On parle de violence auprès des femmes, mais il y a des violences auprès des hommes qui existent aussi. Et on ne peut pas mettre en avant le rôle de la mère comme être suprême qui serait susceptible d'elle pouvoir s'occuper d'un enfant mieux qu'un homme.
Il faut surtout reprendre et regagner raison en évaluant bien les choses et en comprenant qu'aujourd'hui, dans cette société moderne où nous sommes, un enfant a besoin de son père et de sa mère. Et n'y voyons aucun combat, encore une fois, des genres. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup pour votre témoignage ce soir, Anna. Et puis, n'oubliez pas de me tenir au courant, d'accord ?
Oui, merci de votre écoute.
Bonsoir, Anna.
Au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21, 75 centimes plus coût du SMS.